Bonjour Julie Duprat.
Bonjour.
Vous êtes donc archiviste, paléographe, conservatrice donc à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, spécialiste de l'esclavage au XVIIIe siècle, entre autres, et en particulier à Bordeaux même, puisque votre thèse portait sur les présences noires à Bordeaux, d'où est issu un beau livre publié justement aux éditions Mola, qui s'intitulait « Bordeaux métis, esclaves et affranchis de couleur du XVIIIe siècle à l'Empire », dans la continuité de vos travaux, mais je dirais avec une inflexion beaucoup plus personnelle, on reviendra sans doute sur ce point. Vous publiez donc aujourd'hui cet ouvrage, Casimir Fidel, 1748-1796, parcours d'un affranchi. Alors je dirais tout de suite que l'ouvrage entrecroise plusieurs fils, la grande histoire, donc histoire de l'esclavage, aussi histoire de Bordeaux, de l'Ancien Régime, etc., mais aussi histoire d'une figure particulière, celle de cet enfant esclavisé et devenu affranchi, et puis d'une certaine façon aussi votre propre histoire d'historienne, de dénicheuse d'archives, et même une histoire en quelque sorte un peu plus personnelle, pleine d'affect, avec quelques éléments autobiographiques qui surgissent ici et là. Donc on peut peut-être commencer, si vous le voulez bien, tout simplement par cette méthode et parce qu'il fait aussi la spécificité, avant d'entrer bien sûr dans la figure très extraordinaire de votre héros, par la méthode. Alors je dirais d'abord que c'est sans doute autant une enquête, l'histoire d'une enquête qu'une enquête à proprement parler. Vous avez donc mis en scène d'un jeu. Vous dites que c'est un travail de 10 années. Alors bon, ma première question, c'est quel lien affectif tissez-vous avec cette figure? D'où vient cet intérêt pour cette figure? Comment vous l'avez déniché?
Cet intérêt, je l'explique dès, je crois que c'est la première phrase de mon livre, j'explique comment je suis tombée sur Casimir Fidel, comment je l'ai rencontré, et donc la première fois que je vois son prénom et son nom, c'est dans un ouvrage d'érudits bordelais qui revenait sur l'histoire des rues bordelaises, et donc c'est un moment de ma thèse où je commençais à lire plein de travaux d'érudits, voire de masterands des années 70-80, en me disant que déjà j'allais me nourrir de l'histoire bordelaise, d'une histoire très locale, parce que je tenais vraiment à ancrer ma thèse dans ce contexte-là, et en me disant aussi, au détour d'une page ou deux, je peux avoir des petites références de personnes qui sont tombées dans leur propre fond d'archives sur des personnes identifiées comme étant afro-descendantes, donc des personnes qui sont d'origine africaine, et ça va venir nourrir mon corpus avec des éléments différents de ce que moi j'ai pu trouver dans mes propres archives. Et donc, c'est dans cette démarche-là que j'ai donc lu cet ouvrage d'Albert Reich et que je suis tombée sur la mention d'un Casimir Fidel, nègre à la tête de l'hôtel de l'Empereur, nègre traiteur à la tête de l'hôtel de l'Empereur. Et tout de suite, la mention m'a très intriguée parce que l'adjonction des deux épithètes nègre et traiteur, on la voit hyper rarement à l'époque, si ce n'est quasiment jamais, puisqu'on a d'un côté un adjectif racial qui très souvent renvoie à la condition d'esclave ou au fait d'avoir été esclave plutôt dans sa vie, et à côté la mention de traiteur qui pour le coup là est un métier vraiment réputé, qui est un métier de luxe au service des élites. Et donc d'avoir ces deux termes accolés l'un à l'autre, ça m'a tout de suite intriguée. Je me suis dit qu'il devait y avoir une histoire assez romanesque derrière. Et du coup, à partir de là, j'ai toujours cherché à retrouver sa trace dans les archives. Et de plus en plus, je me suis vraiment laissée embarquer dans cette enquête qui était passionnante, parce qu'en fait, ce qui a été très vite satisfaisant, c'est qu'en cherchant, j'ai trouvé. Alors, ça ne veut pas dire qu'au bout d'une minute, j'avais tous les éléments. Ça m'a quand même pris, comme vous l'avez rappelé, 10 ans. Mais comme Casimir Fidel a eu la particularité de vivre libre pendant 20 ans de sa vie, il a aussi produit beaucoup d'archives, ce qui fait qu'on a une masse beaucoup plus importante pour décrire sa vie comparée à d'autres personnes d'origine africaine qui ont vécu à Bordeaux. Donc en fait, je me suis vraiment laissée embarquer dans cette enquête, et puis vous le verrez, on y reviendra, je pense, mais Casimir Fidel a vraiment un parcours personnel très particulier qui est fait de beaucoup de progressions au fur et à mesure de sa vie au sein de la haute société. Et donc, je pense qu'on peut être que très vite happé, en fait, par cette histoire. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce que j'ai, du coup, voulu retranscrire aussi dans cet ouvrage, que j'ai vraiment voulu grand public. Je voulais pas faire une version 2 de ma thèse, quelque chose de très académique. Je voulais vraiment qu'on me suive dans mon enquête. Aussi parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis très transparente, que j'ignore de la vie de Casimir Fidel. Il y a des trous dans mon enquête parce que les archives ont disparu, parce qu'il me manque des éléments. Et ça, je voulais pas que ça disparaisse. Je voulais aussi que ça... le dire très clairement quand je ne savais pas, quand il me manquait des choses. Et je trouvais que me suivre avec moi dans cette enquête, c'était encore ce qui permettait le mieux d'avoir cette honnêteté, cette transparence vis-à-vis du lecteur. Et puis aussi, je n'avais pas envie d'être dans une écriture trop académique. Après avoir déjà publié ma thèse chez Mola, c'était pour moi une belle reconnaissance. Mais j'avais envie, du coup, d'essayer un autre format d'écriture. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce manuscrit avec cette intention-là derrière aussi.
Oui, merci. Justement, effectivement, la caractéristique, en dehors même de de la mise en scène de l'enquête que vous menez, c'est qu'on se trouve dans un objet, je dirais hybride, mais pas du tout en le mauvais sens du terme, d'une certaine façon, relève un peu de ce que parfois on appelle le narrativisme historique, c'est-à-dire effectivement donner à entendre, à voir ces personnages, où se mêlent fiction et histoire. Vous avez beaucoup de moments qui sont des sortes de... effectivement de moments narratifs. Dès le début, j'en ai relevé un, mais il y en a plein. Lors de l'enlèvement de l'enfant, vous passez au présent narration. Il appelle sa mère plusieurs fois, pleure et finit par se taire d'épuisement après plusieurs heures de marche. On a beaucoup aussi de pauses, un peu de petits tableaux, comme des tableaux de genre très à la mode au XVIIIe siècle. Donc, est-ce que... Alors, vous venez de dire effectivement que ça répondait à un besoin sans doute d'une autre écriture, mais vous dites aussi à la fin que votre ethos d'historienne est un peu tiraillé. Comment vous avez réussi à accepter d'une certaine façon ce tiraillement d'historienne? Est-ce que l'historienne s'y retrouve pleinement? Est-ce que...
C'est une bonne question. Moi, je dirais quand même plutôt oui. En fait, dans ce qui peut être peut me tirailler, c'est que je sais que malgré tout, j'ai des interprétations qui sont plus... Ça, pareil, j'ai fait des hypothèses et j'ai des hypothèses sur lesquelles je tends plus que d'autres. Donc, c'est plutôt dans ça qu'à la fin, je dis voilà, c'est mon hypothèse et c'est ma vision de la vie de Casimir Fidel. Et s'il y a d'autres archives qui viennent me contredire, j'en serai la première heureuse. Ça veut dire qu'on a trouvé des choses supplémentaires. Mais par contre, effectivement, sur l'usage de la narration, moi, ça me permettait effectivement de faire des pauses dans le récit, tout simplement. Sachant qu'à chaque fois, c'est introduit systématiquement par un passage où je reviens vraiment sur les sources et sur ce que j'ai lu. Et moi aussi, ce qui me tenait à cœur, c'était de se mettre dans les pas de Casimir, et notamment, du coup, ces passages narratifs me permettent un peu d'essayer de faire ressentir, ou en tout cas d'essayer de se remettre à sa place, de ce que c'est que de vivre une déportation en esclavage, de ce que c'est que d'être arraché à sa terre natale. Je trouvais quand même que c'était important de... Enfin, moi, je voulais pas faire l'impasse sur ça. Je voulais pas faire l'impasse sur cette émotion-là. Ça me paraissait assez essentiel après pour comprendre le reste de son parcours. Je me suis toujours dit, j'essaye autant que possible de me mettre dans ses pas, même si effectivement, ça reste de la narration, et je peux pas dire avec certitude que c'est la manière dont il l'a vécu. Mais c'était une manière pour moi, je pense, d'essayer de faire passer cette émotion-là, aussi l'émotion que j'ai pu avoir dans les archives, parce que quand on lit, notamment pour Casimir Fidel, on sait le bateau sur lequel il était déporté, on le retrouve dans les passagers à la fin lorsqu'il revient en France, on voit son âge, ça peut pas laisser indifférent de voir Casimir s'étant qu'on ramène en France après avoir été déporté 6 mois plus tôt du Bénin. Donc, moi, je trouvais que c'était quand même important d'avoir ces moments-là. Effectivement, toujours dans une optique de rendre aussi le récit plus accessible et de ne pas être dans un narratif trop neutre d'historien. Je pense que des fois, il y a face à certaines archives, on est obligé de ressentir quelque chose. Et je voulais aussi faire passer ça. Et je pense qu'on est tous tiraillés avec cette idée qu'on arrive avec nos lunettes scientifiques et qu'on va avoir une posture très, très neutre, Mais en fait, on se retrouve aussi face à des personnes qui ont réellement vécu, qui ont vécu avec leur traumatisme, etc. Et bah, des fois, c'est compliqué de ne pas se laisser embarquer dans ça. Donc voilà, j'essaie un peu de manier... De manier tout ça en essayant de pas trop en mettre non plus, mais d'en mettre un petit peu pour qu'on puisse se mettre à sa place. Donc, si c'est réussi, déjà, c'est une bonne nouvelle.
Non, non, vous rendez l'archive vivante, ce qui est quand même une grande qualité. Alors, allons au principal quand même, et donc à cette figure de Casimir Fidèle. Donc, votre ouvrage est une sorte de biographie, hein, on va dire, de Casimir Fidèle, avec énormément de mise en contexte de l'époque. On reviendra dessus. Effectivement, c'est une destinée extraordinaire, hein, et notamment parce que c'est une ascension sociale extraordinaire. Alors, on peut essayer peut-être de parcourir hein, quelques traits et de commencer par les débuts, puisque évidemment, alors est-ce que vous pouvez nous raconter un peu placer les premiers déracinements, etc.
Donc, Casimir Fidèle, les deux premières mentions qu'on a de son existence, c'est d'une part, comme je l'ai évoqué il y a quelques secondes, sa mention dans un registre de passagers d'un bateau négrier et d'autre part, son baptême qui est réalisé à Nantes. Et donc, le croisement de ces deux archives nous permet d'esquisser le contexte de sa déportation. On apprend notamment, bah, du coup, le bateau qu'il a déporté, donc qui s'appelle le Saint-Julien. C'est un bateau qui est parti de Nantes et qui s'est arrêté à Ouida, qui est le deuxième port de traite négrière en Afrique, et qui est un port qui va majoritairement drainer des esclaves, du coup, issus d'Afrique de l'Ouest, notamment de l'arrière-pays béninois. Notamment parce qu'à cette époque, le port de Ouida est aux mains de la dynastie dahoméenne, qui est une dynastie guerrière qui a fait un important travail de conquête sur plusieurs décennies, et que même, du coup, vont aller chercher ces esclaves dans l'arrière-pays et vont mener ils ont des miliciens qui sont notamment dévolus à ça, à aller chercher des esclaves dans l'arrière-pays béninois pour fournir et répondre à la demande des commerçants européens qui sont venus spécifiquement acheter des esclaves sur cette partie-là de la côte africaine, et notamment le moment où Casimir naît, c'est un moment d'expansion de l'empire dahoméen. C'est un moment où les milices-là se développent aussi, donc il est probable que il soit né libre et qu'il ait été réduit en esclavage dans ce contexte. L'autre possibilité aussi que j'exclus pas du tout, c'est qu'il soit né esclave, parce que l'Afrique à l'époque c'est aussi une société d'esclaves. Donc on peut très bien déjà être esclave et puis être revendu pour ne plus rester en Afrique, mais être utilisé dans les colonies européennes. Donc ça, c'est son tout début de vie, soit jeune esclave, soit libre. Toujours est-il qu'on le retrouve, ce qui est sur Ouida, et que de Ouida, il va passer du coup sur le Saint-Julien. Et sur le Saint-Julien, il va très vite être sélectionné par le second du navire, qui s'appelle le capitaine Nicolas Marie, qui va exercer ce qu'on appelle un droit de pacotille. Le droit de pacotille, c'est un droit qui est donné au capitaine et à son second lors d'une traite négrière et qui leur permet de sélectionner un esclave dans la cargaison et de l'obtenir gratuitement. Donc ça leur permet souvent de se faire des bénéfices parce qu'ils vont les revendre pour leur propre compte aux Antilles. Et c'est un bénéfice qui n'est pas... C'est pas négligeable, notamment parce qu'on sait que les opérations de traite négrière, c'est pas des opérations non plus qui sont hyper bénéfiques d'un point de vue financier. Ça peut être dangereux à plusieurs moments d'un point de vue juste du trajet. Il y a des moments où elles sont pas rentables aussi. Donc du coup, d'avoir aussi cette certitude qu'on va pouvoir derrière revendre en esclave et se faire de l'argent dessus, c'est pas négligeable. Et c'est exactement ce qui se passe pour Casimir Fidèle, qui est du coup sélectionné au sein de la cargaison. J'ai pas d'archives précises pour savoir ce qu'il fait durant la traversée du milieu, qui est donc cette traversée qui dure plusieurs semaines, qui permet de rejoindre la côte africaine aux colonies françaises. Mais en comparant avec d'autres jeunes enfants qui, pareil, ont été sélectionnés par les capitaines à la même époque, on sait que souvent, ce sont des jeunes esclaves qui faisaient office de domestiques sur le bateau et que certains étaient déjà mis dans un espèce de pré-apprentissage auprès du cuisinier ou du coq du navire ou du boulanger du navire. Ce qui est une possibilité pour Casimir également, puisqu'on le verra, mais plus tard, il va être placé en apprentissage, pour le coup, très formel, pour devenir cuisinier. Donc, potentiellement, cette formation, elle a aussi commencé dès le bateau négrier, pour servir de petites mains au coq et et au reste des marins. Donc il vit cette traversée-là dans un environnement du coup qui est assez différent du reste des esclaves qui, eux, sont parqués et ont accès à l'air libre qu'à certains moments de la journée. Lui, a priori, il est vraiment constamment auprès du second du capitaine ou des autres marins. Il a accès aussi à d'autres ressources, notamment, si, imaginons qu'il ait eu accès à la cuisine, il a pu potentiellement se nourrir plus facilement que les autres esclaves. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'arrivée aux Antilles, le capitaine Nicolas Marie sait très bien ce qu'il veut faire du jeune enfant. Il ne veut pas le revendre aux Antilles. Il veut le garder auprès de lui et le ramener avec lui en métropole. Donc, Casimir Fidèle, s'il a été aux Antilles, possiblement, il est descendu peut-être deux semaines. En tout cas, il n'a pas eu le temps de s'imprégner de la culture créole. Il n'a pas eu le temps d'apprendre la langue créole. Ce n'est pas du tout, pour la suite de son parcours, un passage qui va être déterminant et qui va l'influencer. Et ça aussi, ça va faire qu'il il va avoir un parcours, de ce point de vue-là, assez radicalement différent, une expérience différente des autres personnes réduites en esclavage qui, elles, vont connaître beaucoup plus longuement ce microcosme qu'est l'arc antillais, avec son mode de vie, sa langue, ses coutumes. Tout ça, Casimir Fidèle ne le voit pas. Il passe quasiment directement de l'Afrique à la métropole.
Oui, vous dites d'ailleurs qu'il subit deux déracinements. C'est-à-dire le premier, et puis aussi le déracinement du groupe,
absolument,
en fait, des autres esclaves, puisqu'en fait, il aura toujours cette ambiguïté ou cette ambivalence d'être à la fois, de faire partie, effectivement, des esclaves noirs ou des anciens, et puis d'être justement particulier, original.
Exactement, depuis le début, d'être associé aussi à une famille, et puis par la suite à plusieurs familles. Et on le verra, mais dans la suite du parcours, il y a des moments où il va être confronté à des esclaves qui n'ont pas la même culture que la sienne. Et donc j'imagine que c'est aussi quelque chose qui a dû le marquer et influencer son parcours, ça c'est certain.
Alors les deux noms, là, Casimir, Fidèle, parce qu'en fait on ne connaît pas son nom.
Non, on ne connaît pas son nom, et d'ailleurs le début du récit commence, je ne donne pas le nom Casimir, jusqu'à ce que le capitaine Nicolas Marie le renomme. Pendant plusieurs pages, Casimir Fidèle, je l'appelle « et », qui est la manière de dire « il » dans sa langue maternelle, qui est la langue fon. Et donc pendant plusieurs pages, l'enfant c'est juste « et », jusqu'à ce que donc Nicolas Marie apparaisse et qu'il renomme l'enfant, et à partir de ce moment-là, il devient Casimir pendant toute la fin du récit. Donc il a un premier prénom qu'on lui donne, qui est le prénom de Casimir, qu'il va acquérir, ça ce qui est sûr, dès la traversée du milieu, donc entre l'Afrique et les Antilles, puisqu'au moment où le bateau repart des Antilles pour aller dans la métropole, il est rajouté dans la liste des passagers, et que là, il est clairement nommé Casimir. C'est pas un prénom qui est très très courant, d'ailleurs. J'ai un peu de mal à... Enfin, c'est pas très clair où est-ce que Nicolas Marie est allé pêcher ce nom exactement. Est-ce qu'il avait une culture particulière? Ce qui est sûr, c'est que Casimir, c'est un prénom polonais. A priori, quand même, une culture qui le portait plutôt vers l'histoire de la Pologne ou l'histoire de l'Europe de l'Est. Et après, il reçoit un deuxième prénom. Pareil, ça, c'est quelque chose d'assez coutumier. Là, pour le coup, c'est lors de son baptême. On va le renommer Fidèle. Et on le dit, d'ailleurs, on lui impose le nom de Fidèle lors de son baptême. Donc, à partir de ce moment-là, il va vraiment, dans sa vie, avoir ces deux prénoms, noms, qui vont, à la fin de sa vie, devenir pour l'un son prénom et pour l'autre son patronyme, mais qui vont vraiment être employés de manière un peu indifférente. Casimir donné sur le navire, Fidèle donné à Nantes, et pareil, la prénomination de Fidèle, pour le coup, la moins compliquée à cerner, mais on aimait bien donner des adjectifs qui, pour les esclaves, allaient leur permettre de se projeter dans leur futur rôle et d'anticiper ce qu'on attendait d'eux. Donc évidemment, quand on prénomme Casimir Fidèle, on attend de lui à ce que dans les années qui arrivent, il fasse preuve de loyauté, et ce ne soit pas un esclave rétif et qu'il se montre toujours fidèle aux familles qu'il emploie. Et là, pour le coup, c'est assez original parce qu'on sait que son parrain ne s'appelait pas Fidèle. Évidemment, Fidèle, ce n'est pas du tout un prénom chrétien. Son parrain s'appelait André. Et donc, voilà. Là, pareil, ils ont dérogé un peu la tradition de prénomination chrétienne pour de nouveau venir marquer de leur sceau cet enfant. Évidemment, ces processus-là de prénomination, ce n'est pas anodin. On renonce complètement à son prénom que lui a donné ses parents, et c'est une manière, une fois de plus, vraiment d'imprimer quelque chose sur cet enfant, de le modeler à ce qu'on attend de lui. Et pareil, ça va poursuivre Casimir tout au long de sa vie. Mais donc effectivement, on a ces deux prénoms, Casimir, Fidèle.
Et alors effectivement, comme vous dites très bien, ce ne sera pas un esclavisé rebelle.
Non.
Ce qui caractérise sans doute ce fidèle, c'est justement cette... vous parlez de caméléon à un moment, cette facilité, enfin facilité, on n'en sait rien, mais en tous les cas, ce parcours d'ascension sociale obtenu par effectivement un certain nombre de services rendus. Alors, quelle est cette extraordinaire ascension sociale?
Alors, dans un premier temps, l'ascension sociale n'a pas lieu, notamment parce que pendant, jusqu'à ce qu'il ait 30 ans, pile, il va continuer à être employé comme esclave. Et donc, pendant tout ce temps, il va pour le coup suivre un parcours assez classique d'esclave vivant en métropole, sachant que je le rappelle maintes et maintes fois quand je fais des interventions, mais l'esclavage en métropole à l'époque, il est légal. Il y a Casimir Fidel qui est réduit en esclavage, mais il y en a plein d'autres à ses côtés. Et on estime, il y a un travail collectif d'historiens qui a été fait, qu'il y a 15 000 esclaves qui sont apportés en métropole au XVIIIe siècle et qui vont conserver ce statut. Voilà. Donc, le fait d'arriver en métropole ne va pas d'un coup le libérer de quelque chose. Il y a quand même tout un passage où il continue d'être esclave. La première étape qui va quand même participer à sa progressive ascension sociale, c'est qu'après avoir vécu plusieurs années à Nantes, il est revendu, quand il est sans doute jeune adolescent, à une famille parisienne. Et cette famille parisienne-là va faire le choix de le placer dans une institution qui est très particulière à Paris, qui s'appelle l'Hôpital de la Trinité, qui est une institution qui a vocation à ouvrir l'apprentissage aux plus pauvres de la population. Donc, pour vous faire un peu en récapitulatif de ce que c'est l'apprentissage sous l'Ancien Régime, c'est quelque chose qui est strictement encadré par le cadre corporatif. C'est un apprentissage qui coûte cher, ça coûte plusieurs milliers de livres. Donc, théoriquement, c'est pas à la portée de tous. Il faut déjà avoir une famille d'artisans qui puisse soutenir cet apprentissage-là et nous faire rentrer dans une corporation. Et l'hôpital de la Trinité à Paris, il a vocation à contourner un petit peu ce cadre-là corporatif très strict en offrant la possibilité à des orphelins parisiens d'être formés contre un prix de formation qui est vraiment nettement réduit. Et puis, ils sont placés auprès de maîtres reconnus qui font vraiment partie d'une corporation parisienne. Et du coup, à la fin de leur apprentissage, ils ont pu bénéficier d'une formation. Ils peuvent intégrer la corporation de manière très officielle. Tout ça en n'ayant pas payé le prix classique et en ayant bénéficié de cette structure de charité, en fait. Et donc, c'est exactement ce qui se passe pour Casimir. Même s'il ne remplit pas tous les critères d'admission, notamment il n'est pas parisien, mais comme souvent, il y a des choses qui s'achètent. Et donc, il est assez probable que ces propriétaires qui font partie de l'élite parisienne et jouer des coudes pour faire rentrer leur protégé dans cette institution-là. Et ce qui est sûr, c'est que du coup, il va être formé vraiment de manière très, très officielle au sein de la corporation des pâtissiers parisiens, qui est une corporation qui va avoir une polyvalence de métiers qui est vraiment pas inintéressante dans le monde gastronomique de l'époque, parce que les pâtissiers sont notamment chargés de tout ce qui est... repas à base de pâtes, donc ils vont pas faire que les gâteaux et pas faire que les choux, ils vont aussi se charger de tout ce qui est tarte, de tout ce qui est pâte brisée, pâte feuilletée et tout ce qui en découle, en fait. Donc c'est une formation qui est très complète, qui lui permet d'apprendre à faire des feuilletés à la viande comme des gâteaux, et qui va vraiment vraiment marquer son parcours et dont il va constamment se réclamer lorsqu'il sera libre. Lui-même, il se désignera jamais comme africain ou comme nègre. Il dira toujours qu'il est traiteur parisien. Et c'est ce qu'il tient à faire savoir au monde, c'est qu'il a reçu une formation à Paris. On a perdu les archives de cette corporation, mais on sait qu'il a été formé là-bas parce qu'il prend un serment au sein de la corporation. Et ça, pour le coup, on a l'archive du jour où il a tenu un serment et le moment où il a été officiellement intégré à la liste des maîtres une fois devenu libre. Et donc ça pouvait, vu la rigidité du système corporatif parisien, ce n'était possible que s'il était connu en amont de ces mêmes maîtres et que si on savait qu'il avait bien suivi la formation de manière très officielle. Donc ça, c'est sa vie pendant à peu près entre 10 et 15 ans. Il va être d'abord adolescent, puis jeune adulte à Paris, pâtissier, toujours esclave, Donc, sa force de travail, il ne gagne pas d'argent avec. L'argent va être récupéré par ses propriétaires. Mais en tout cas, ça va vraiment lui permettre d'avoir une formation qui est très, très solide. Et aussi parce que progressivement, une fois sorti de sa formation, il va sans doute être amené à travailler pour, dans le cadre de banquets qui sont très fréquents à Paris, par exemple. Et donc, d'avoir une solidité très importante de toutes ces connaissances-là qui vont lui servir à terme lorsqu'il sera libre. Et donc ça, c'est vraiment le moment aussi, c'est le premier pivot de la vie de Casimir Fidèle. C'est ce moment où il intègre cet hôpital de la Trinité. Parce que le fait d'avoir suivi un apprentissage dans le cadre d'une corporation, c'est rarissime. Il est presque tout seul, en fait. Et déjà, dans ce premier moment-là, il va commencer à s'éloigner du parcours classique d'un esclave.
Oui, et donc, ensuite, on a l'étape de l'affranchissement. Et donc, pourquoi cet affranchissement? Comment c'est possible et quel intérêt pour le propriétaire et
Donc, entre-temps, Casimir, du coup, a quitté Paris. Il est revendu une dernière fois. Il arrive à Bordeaux et il entre au service d'une famille qui est la famille des La Montagne-Soissons, qui ont avec eux plein d'esclaves à leur service à Bordeaux même. Et il y en a quelques-uns d'entre eux qui ont le privilège d'être affranchis. Ils sont deux, puis trois. Mais les deux premiers, c'est donc Casimir Fidèle, qui est le cuisinier, et Clotilde, qui est leur nourrice. Et donc là, déjà, on voit très bien ce qu'il y a derrière un affranchissement, c'est que les propriétaires bordelais n'affranchissent pas l'esclave qui fait la poussière, l'esclave qui s'occupe du linge. On affranchit l'esclave qui a un talent particulier, l'esclave qui a une relation intime avec cette famille. En l'occurrence, la nourrice qui s'occupait de tous les enfants, et Casimir Fidèle qui donc s'occupe du repas, jour et nuit, de la famille bordelaise, mais aussi de leurs proches quand ils viennent les visiter, et aussi de nourrir les autres esclaves quand même qui travaillent dans la maisonnée. Et donc ça, déjà, on sait que souvent l'affranchissement, il va être à l'œuvre pour des esclaves qui dans la hiérarchie de la maison, ne sont pas à égalité avec les autres, et qui sont déjà à l'entre-deux entre les esclaves domestiques et l'élite familiale, parce qu'ils sont confrontés tous les jours au maître de maison, et ils vont avoir un rôle de prestige aussi. Casimir Fidèle, avoir un cuisinier qui est très bon dans ce qu'il fait, évidemment que ça va être un moyen pour la famille de se mettre en avant, et donc c'est lui qu'on va choisir d'affranchir plutôt que le travail de l'ombre, qui n'est pas intéressant, comme d'habitude, c'est les travaux qui sont encore aujourd'hui, qui sont moins bien payés et qu'on ne cherche pas à mettre en valeur. Et c'est déjà les mêmes mécanismes à l'œuvre à l'époque. Et puis aussi, l'affranchissement, il vient toujours récompenser le zèle et la fidélité d'un esclave. Et ça, c'est vraiment la formule consacrée dans les actes d'affranchissement. On dit on affranchit pour son zèle et sa fidélité. Donc ça, je le dis beaucoup, Casimir Fidèle, c'est pas un esclave rebelle, pas du tout. Donc a priori, c'est en faisant jouer à la fois ses talents de cuisinier, à la fois sa personnalité opportuniste aussi, c'est-à-dire savoir se plier à ce qu'on attend de lui pour avoir ce qui l'intéresse, c'est-à-dire obtenir sa liberté. Et après, le cas de l'affranchissement, on n'a pas retrouvé l'archive, mais par contre, il a été recensé comme plein d'autres esclaves et libres de couleur l'année 1777, et c'est dans ce recensement qu'il est très clairement indiqué qu'il a été affranchi par cette famille, par cette fameuse famille La Montagne-Soissons, qui est du coup sa dernière famille, la dernière famille à le posséder. Et donc l'affranchissement arrive sans doute quelques mois avant, en tout cas dans ces eaux-là, notamment parce que le recensement donne lieu à certains affranchissements un peu liés à la légalisation. C'est des complexités administratives sur lesquelles je ne reviendrai pas longuement, mais que j'explique dans l'ouvrage. Et donc, ce n'est pas le seul aussi à être affranchi à ce moment-là. Il y a tout un côté un peu où certains propriétaires veulent se mettre en règle, et donc ils affranchissent les esclaves qu'ils jugent méritants à ce moment-là.
Alors, sur ce parcours d'ascension sociale très progressive, justement, est-ce que vous pensez qu'il y a une stratégie consciente de... Est-ce que il y a le modèle au XVIIIe siècle, par exemple, c'est le parvenu, le paysan parvenu qu'on a chez Marivaux. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là?
C'est une très bonne question et c'est difficile à dire, quand même. Moi, j'ai quand même l'impression qu'au bout d'un moment, on sent qu'il a l'air de mettre en place des choses, notamment quand il est libre, on sent qu'il met en place des choses pour monter socialement. Donc j'imagine que c'est pas une qualité qui lui est apparue subitement avec le simple papier d'affranchissement, et que c'est déjà des qualités qu'il avait pu développer avant en tant qu'esclave. Donc, moi, je suis plutôt de la position qu'effectivement, du moment où il a été commencé à être jeune adulte, qu'il avait derrière lui plusieurs années en tant qu'esclave, qu'il commence à comprendre aussi comment ça fonctionne en métropole, qu'il maîtrisait le français, qu'il était passé entre les mains de plusieurs familles, qu'il avait été passé dans trois villes différentes, enfin, qu'il commençait à avoir un bagage aussi et une expérience assez longue. Tous les esclaves en métropole ne restent pas aussi longtemps que lui. La plupart restent quelques mois avant de repartir aux Antilles. Il y a une minorité qui reste plusieurs années comme lui, et c'est aussi ceux qui, à la fin, connaissent le mieux en fait le fonctionnement de ce milieu métropolitain qui est différent du milieu colonial. Donc moi, j'imagine qu'au bout d'un moment, ça a été d'une stratégie de sa part absolument. Et la stratégie, on la sent pour le coup très nettement lorsqu'il est libre. On y reviendra sans doute, mais.
Oui. Alors avant, au même moment justement, il se marie, hein, donc. Est-ce que là aussi on peut parler de stratégie dans l'ouvrage? Vous oscillez un peu entre l'intérêt de ce mariage, qui a un intérêt sans doute commun, hein, c'est-à-dire que oui. Sa femme aussi a intérêt
à se marier
oui. Et une sorte d'amour. Hein,
Je pense que les deux ça s'exclut pas. Je pense qu'ils ont été, amoureux, notamment parce qu'ils étaient amants avant de se marier. Donc il y a une relation charnelle parce que leur fils naît bizarrement pas 9 mois après le mariage. Mais ce qui est certain, c'est que pour les deux, c'est une vraie stratégie. Casimir Fidèle, il n'a pas non plus choisi n'importe qui comme femme. En l'occurrence, sa femme, c'est Ursule Lachaise. Déjà, elle est française. Elle est originaire de Brive-la-Gaillarde. Et elle est originaire d'une famille qui est bien établie à Brive-la-Gaillarde. C'est pas une famille de paysans, c'est une famille de petits bourgeois qui notamment son père était aux eaux et forêts de Brive-la-Gaillarde, donc il avait un rôle d'administrateur local. Et elle-même, on le verra notamment quand ils vont prendre la tête tous les deux de l'hôtel de l'empereur. Mais Ursule Lachaise, elle sait écrire, elle sait gérer des comptes. Voilà, c'est quelqu'un qui a des qualités aussi intellectuelles qui vont servir au couple. Donc moi, ma supposition, c'est qu'ils se sont à la fois aimés et que les deux ont aussi très vite perçu qu'ils avaient de l'ambition mutuellement et qu'ils allaient pouvoir s'aider à monter en commerce. Et notamment, Ursule Lachaise a hérité de son père en avance. Elle a reçu sa part d'avance, une part d'avance Elle a reçu la mort de son père, une avance sur héritage qui est assez conséquente, qui se compte en plusieurs milliers de livres. Et c'est ce qui va les aider à lancer leur hôtel, parce que il faut louer les lieux, il faut pouvoir avancer le prix d'allocation, il faut pouvoir meubler les lieux, il faut pouvoir payer les domestiques qui travaillent, il faut pouvoir payer toute la nourriture, voilà. Et donc tout ça s'est rendu possible uniquement parce que Ursule arrive et que sa mère lui a fait une avance sur héritage et qui va vraiment les propulser et pas les faire vivoter quoi pendant des années. À la marge de la pauvreté, parce que quand ils se marient, pour le coup, ils ont très peu d'argent en commun. Et quelques mois plus tard, ça change tout au tout. Donc moi, mon hypothèse, c'est qu'une fois qu'ils étaient mariés, Ursule était re-rentrée dans les rangs après avoir été mère, après avoir eu une relation hors mariage, et du coup, sa mère lui a donné cet argent-là pour lui permettre de retrouver aussi une position sociale en s'étant remariée et en ayant retrouvé... quelque chose qui convenait mieux aux attentes sociales du XVIIIe siècle, qui voyait d'un mauvais œil les personnes qui avaient des enfants en mariage.
Oui, mais ce qui est très étonnant, et là aussi, dans votre ouvrage, à plusieurs moments, vous revenez sur des idées assez préconçues qu'on a sur le XVIIIe siècle. Bon, vous parliez de la réglementation de l'esclavage, là aussi, sur les mariages mixtes, et notamment sur un mariage avec... un ancien esclave noir au XVIIIe siècle, on n'imagine pas un instant que la belle famille pourrait le prendre aussi bien, alors que du début à la fin, on voit bien que la mère, Lachaise, Lachaise soutient absolument tout le temps son beau-fils, y compris financièrement.
En fait, ce qui est intéressant déjà à ce moment-là, c'est que c'est pas non plus une évidence à l'époque. Il y a quand même des débats déjà à l'époque sur les mariages mixtes avec des personnes, notamment les lobbies coloniaux, qui sont très farouchement opposés à ces mariages mixtes, qui sont vus comme une manière à terme de faire rentrer des personnes de couleur dans la société, dans la haute société, qui vont venir piquer les privilèges des blancs. Donc il y a des gens qui sont très très rétifs à ça et qui vont œuvrer au moment d'ailleurs où ils se marient à faire interdire les mariages mixtes. Ce n'est pour le coup par contre jamais légiféré, et donc en fait ça va laisser la libre appréciation de est-ce qu'on célèbre ces mariages ou pas aux mains des curés locaux. Et pour le coup, à Bordeaux, notamment dans la paroisse Saint-Seurin où ont lieu tous les mariages mixtes, le curé ne fait aucune opposition à ces mariages mixtes parce qu'il se range à l'avis de l'Église qui est de dire il vaut mieux avoir des personnes mariées que des personnes qui vivent en concubinage. Et nous, ce qu'on veut éviter, c'est des enfants en mariage, c'est des unions qui ne sont pas, qui n'ont pas été réalisées sous l'œil de Dieu. Et du coup, on retrouve un peu cette même ambivalence dans la population bordelaise. Il y a une partie des élites bordelaises qui sont très farouchement opposées à des mariages mixtes et qui vont marquer leur opposition lorsque leurs enfants veulent en conclure. Mais par contre, elle, Guillemette Lachaise, elle n'est pas du tout de ce milieu colonial-là. Elle est de l'arrière-pays du sud-ouest. Elle, son intérêt, c'est que sa fille, qui a été veuve avec un enfant hors mariage, se retrouve une position sociale. Donc quand on lui présente son nouveau beau-fils, elle l'accepte parce que ce qu'elle veut, c'est qu'on voilà, c'est que sa fille rentre dans les rangs. Et du coup, toute sa vie, elle va jamais cesser de soutenir cette nouvelle cellule familiale. Elle va se rendre à Bordeaux plusieurs fois pour visiter Casimir, Ursule et leur fils qui s'appelle Jean-Baptiste. Et même à la Révolution française, Casimir va lui aussi se rendre à Bives-la-Gaillarde pour aller voir sa belle-mère. Enfin, on sent qu'il y a vraiment une proximité de relation et que familialement, en tout cas dans leur petite cellule familiale, le mariage est très bien accepté, même si ça ne veut pas dire que, d'un point de vue plus large, il y a certaines personnes qui ont dû les regarder de manière de travers, quoi. Mais en tout cas, eux, dans leur cellule nucléaire, ça s'est vraiment bien déroulé. Et c'est très émouvant parce que c'est assez rare aussi qu'on ait des témoignages comme ça de personnes qui ont assisté à ces mariages-là, qui expriment quoi, leur consentement. Et pour le coup, la belle-mère de Casimir, elle a fait une lettre où elle évoque très clairement que son beau-fils fait partie de la famille. Et donc ça, pareil, c'est très rare de tomber sur ce genre d'archives.
Alors, on peut en arriver au moment de gloire, disons, de Casimir. Donc, quand il devient le directeur de l'hôtel de l'Empereur. Mmh. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on est aussi dans l'évocation du Bordeaux du XVIIIe siècle et des grandes transformations suite à Tourny. Mmh. Et là, on est vraiment au cœur. Donc, on est quand même à Bordeaux avec des Bordelais qui connaissent bien la situation. Et on est au cœur du Triangle d'Or. Ouais. Hein. Donc, où se situe l'hôtel de l'Empereur comment,
Il est vraiment pas loin. Si vous voulez y aller à la sortie, moi, je suis très contente de faire l'intervention ici. Il est à 50 mètres, je crois. Il est juste à côté de l'auditorium aujourd'hui de Bordeaux. Il est cours Clémenceau, au 13. Et d'ailleurs, il a été d'abord au 13, mais progressivement, au fur et à mesure que Fidèle réussissait, il s'est étendu au 11, dans l'immeuble d'à côté, et même au 15, à une partie du 15. Donc ça faisait une espèce de bloc comme ça d'immeuble qui est vraiment juste contigu à l'auditorium. Aujourd'hui, l'auditorium de l'Opéra
Oui, l'auditorium. Voilà.
Et donc c'est juste à côté d'ici, donc vous pourrez aller l'admirer, même si ça je le redis dans mon livre, mais aujourd'hui on a la façade qui reste, mais l'intérieur, vous savez sans doute, a été largement détruit justement pour faire l'extension de l'auditorium, etc. Donc on ne peut pas retrouver, quand on rentre dans l'immeuble, j'en ai fait l'expérience, malheureusement on ne peut pas retrouver les volumes de ce que c'était au XVIIIe siècle, mais il reste la façade et il reste d'autres évocations des archives, les cadastres de l'époque et les archives de la presse aussi. On a la chance pour l'hôtel de l'Empereur d'avoir, comme pour beaucoup de commerces en fait, de l'époque, énormément d'archives dans les journaux bordelais. Notamment, il y a les avis, annonces et affiches bordelaises qui sont largement exploitées à l'époque par les commerçants pour faire la publicité de leur commerce. Et Casimir ne fait pas exception. Et donc, il y a comme ça 80-90 annonces qui vont évoquer le moment où les 15 années où il est à la tête de l'hôtel de l'Empereur et qui permettent vraiment de reconstituer ce que c'est que l'ambiance de cet hôtel. Et c'est aussi un passage que j'ai voulu volontairement long parce que c'est quand même 15 années de la vie de Casimir Fidèle. C'est aussi l'apothéose de sa carrière professionnelle. Et donc même si c'est... et là, on retrouve vraiment ce côté... il est maître traiteur, pâtissier à cette époque. Il n'est plus tellement esclave. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'il veut être perçu. Son intérêt à lui, c'est d'être perçu comme maître traiteur, pâtissier, parisien. Donc j'ai vraiment voulu qu'on ait un chapitre entier consacré à qu'est-ce que c'est que de gérer un hôtel à l'époque. C'est quoi être traiteur ? Aussi parce que moi, j'avais du mal, dans ce que j'ai pu lire jusqu'ici, à avoir des historiens qui traitaient... du quotidien de ces hôtels de luxe du Bordeaux du XVIIIe siècle. On a des pages pour Paris avec Daniel Roche, mais à Bordeaux même, finalement, c'est pas personne non plus n'a pris des études de cas de ces hôtels-là. Donc je me suis dit qu'on allait aussi, j'allais en faire une un petit peu longue pour donner à voir ce que c'est que d'être tenancier d'un hôtel de luxe, parce qu'en fait, c'est un métier très très polyvalent. Casimir était à la fois cuisinier, mais c'était pas tout. Il gérait évidemment le logement des personnes qui accueillaient. Il gérait leurs déplacements. Ils avaient notamment une remise avec des calèches qui étaient mises à disposition de leurs clients. Ils avaient des domestiques assez nombreux qui parlaient plusieurs langues, qui savaient, qui étaient tous un peu polyvalents, qui savaient coiffer, qui savaient habiller. Donc on imagine une. Et d'ailleurs, c'est prouvé aussi par le profil de certains clients, hein, une clientèle internationale qui arrive, qui ne connaît rien de Bordeaux et qui a besoin d'une solution clé en main. Donc, ils ont besoin de dormir, de manger. Ils ont besoin qu'on leur fournisse de quoi se déplacer, d'avoir des domestiques qui soient là à demeure pour les habiller, les coiffer. Ils ont besoin aussi de distractions. Et à l'hôtel de l'Empereur, comme dans d'autres hôtels, il y a des bals qui sont organisés. Des fois, il y a des jeux d'argent qui sont organisés. Donc, en fait, c'est vraiment un microcosme. Et aujourd'hui, je trouve ça rigolo parce que si on regarde le pâté de maison où est situé l'hôtel de l'Empereur, on retrouve tout ça. Pendant longtemps, il y a eu un agendas qui était situé dans l'hôtel. À côté, on a l'auditorium. Il y a le parking Clémenceau quand même. Enfin, et en fait, on retrouve toutes ces fonctions-là, aujourd'hui modernisées, mais qui étaient déjà à l'époque au sein de l'hôtel. Et c'est vrai qu'on imagine mal que c'était un hôtel, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment des façades d'immeubles. Mais il faut vraiment s'imaginer que quand on rentrait dans le, qu'on passait le perron, en fait, il y avait toute une ruche qui s'organisait dans les étages avec des activités assez diverses et assez variées. Et donc ça, c'est vraiment une gestion qu'ils vont aussi faire à deux, puisque je l'ai dit, Casimir, lui, il a son bagage de cuisinier. Mais on sait que c'est Ursula Lachaise qui fait l'embauche des domestiques, qui est celle qui écrit le mieux des deux, qui est en relation avec sa mère pour, d'un point de vue comptable, maintenir à flot leur société. Donc vraiment, c'est aussi un travail de couple. Et ça, c'est assez typique de l'Ancien Régime. Hein. On parle peu des femmes, mais souvent, le commerce était une activité conjugale où on se répartissait les tâches. Et donc là, en l'occurrence, voilà, la répartition des tâches s'est faite de cette manière-là, de manière peut-être un peu plus habituelle, parce que souvent, c'est plutôt le mari qui va avoir ce rôle de comptable et de tenue des registres et la femme qui va être au contact des clients. Là, on est un peu dans une situation inverse, mais aussi dû au parcours très spécifique de Casimir et d'Ursule. Et donc voilà. Et donc ça, ça les tient quand même pendant 15 ans. Et puis, ils voient passer dans l'hôtel des figures. Il y a Mesmer qui vient, par exemple. Si vous êtes un peu, si vous aimez un peu le 18e, voilà, c'est une personnalité que vous connaîtrez. Il y a le comte de Caglioso qui passe aussi. Donc, c'est pas non plus n'importe qui vient être hébergé à l'hôtel de l'Empereur.
Et alors, ce que vous montrez très bien aussi, c'est que Casimir Fidèle a noué et en plein dans un réseau de sociabilité de grandes familles très connues ici. Donc, vous avez parlé de la Montaigne Soissons, aussi les Labotière. Et donc, il est vraiment au cœur de ces réseaux-là. Ouais. Comment ça vous évoquez même, vous suggérez, vous faites l'hypothèse que peut-être il est au cœur d'un réseau de francs-maçons.
Pas au cœur, mais à la périphérie, en tout cas. En fait, ce qui est intéressant avec Casimir Fidèle, c'est que on sent que lui, sa stratégie pour réussir, ça a été de se dire je vais continuer à me servir des élites de la même manière qu'on se servit de moi, et donc moi, je vais nouer des relations avec des personnalités vraiment influentes à Bordeaux, parce que c'est elles qui vont m'apporter les clients, c'est elles qui vont me permettre d'asseoir l'économie de mon établissement. Et donc, effectivement, l'un de ces grand proche, c'est Jean-Pierre Labotière. Pareil, si vous connaissez le 18e siècle bordelais, c'est un nom que vous avez vu 10 000 fois. Les Labotière, c'est les libraires de Bordeaux, c'est les éditeurs de Bordeaux, c'est eux qui ont tenu le journal, notamment, que j'ai évoqué tout à l'heure. Et du coup, ce Jean-Pierre Labotière, il permet aussi à Casimir Fidèle d'être en lien avec cette énorme dynastie des Labotière. Et par ailleurs, effectivement, j'ai fait le constat qu'il y a plusieurs de ses clients ou de ses proches qui sont francs-maçons. Pas tous, mais un nombre assez important. Donc, est-ce que c'est une simple coïncidence, parce qu'il y a beaucoup de Bordelais de l'époque qui, lorsqu'ils appartiennent aux élites, sont francs-maçons, c'est quand même un réseau de sociabilité avant tout. Est-ce que c'est plus qu'une coïncidence? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, potentiellement, ça a pu l'aider d'avoir des frères maçons qui se passaient son nom lorsqu'il fallait trouver un hébergement. Mais Fidèle a toujours souhaité maintenir ses relations avec l'élite. On sait aussi qu'il n'a pas renié la famille qui l'a réduit en esclavage. Hein, les Lamontagne-Soissons, par exemple, ça va être le parrain de son propre fils. Donc, il a aussi toute une. Lui, il a intérêt à garder ces liens-là. et il va les entretenir, ce qui, pour le coup, est une stratégie très consciente et assez particulière, parce que ce n'est pas une stratégie qu'on retrouve chez tous les affranchis bordelais, à l'inverse, et des affranchis bordelais qui, eux, font le choix de couper tous les liens avec cette élite-là qui les a réduits en esclavage, et plutôt de créer du lien avec d'autres affranchis, avec d'autres anciens esclaves, pour avoir une solidarité intracommunautaire. Et ça, on le retrouve dans d'autres personnalités de l'époque, parce que Casimir Fidèle, même si c'est le plus flamboyant d'entre eux, n'est pas le seul affranchi. C'est pas le seul affranchi à tenir un commerce de bouche à l'époque. Ils sont plusieurs à Bordeaux à être des Africains et à avoir des auberges ou à tenir un café. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que tous, à part Casimir, donc, sont liés entre eux et font le choix plutôt entretenir une sociabilité afro-descendante avec d'autres anciens esclaves et de pas faire comme Casimir, de pas aller chercher les élites, mais vraiment de rester entre eux aussi pour des raisons qu'on peut très bien comprendre, je pense, après tout ce qui leur est arrivé. Et donc Casimir lui fait pas du tout ce choix-là. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans cette personnalité, c'est que on sent que il est opportuniste dans sa manière de s'élever socialement et qu'il va aussi à contre-courant de nous ce qu'on attendrait d'un ancien esclave aujourd'hui. D'un point de vue collectif, on se dirait un ancien esclave, c'est forcément quelqu'un qui doit être rebelle, qui doit aider les personnes qui lui ressemblent, qui doit être en opposition avec le système qui l'a créé. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que Casimir, lui, il fait le choix pendant très longtemps d'aller dans le sens de ce système-là, parce que c'est là que lui va avoir son intérêt et qu'il va tirer, en fait, qu'il va avoir le plus de cartes à jouer. Mais c'est très personnel et c'est pas la stratégie adoptée par tout le monde.
Non. Et alors, la dernière étape, effectivement, où ça se modifie néanmoins, c'est sous la Révolution et lorsqu'il devient député, où il renoue là d'une certaine façon avec son groupe d'anciens esclaves. Mmh. Et là, vous avez plus d'incertitudes apparemment, et sur la politisation éventuelle de Fidèle et sur sa place réellement.
Ouais. En fait, ce qui est difficile à cerner, c'est que là, une fois de plus, j'avais pas envie de plaquer moi mes attentes, c'est-à-dire que je voulais pas dire bon, c'est la Révolution française, les premiers débats abolitionnistes commencent à émerger dès 1789. Donc il y a deux débats parallèles. L'idée à la fois que les libres de couleur, qui sont donc d'origine africaine, mais libres, doivent avoir les mêmes droits que les blancs, et l'idée qu'il faut abolir l'esclavage. Donc les deux combats se mettent un peu en parallèle, avec des temporalités un peu différentes. Et je voulais pas partir du principe que parce que Casimir est né esclave, en tout cas a été réduit en esclavage très tôt, il a été pro-abolitionniste. Notamment parce qu'on sait qu'il y a des libres de couleur qui eux-mêmes ont eu des ancêtres réduits en esclavage, qui n'ont pas adopté ce point de vue-là, et qui eux-mêmes ont mis plusieurs années à être ralliés à la cause abolitionniste. Donc moi, je veux maintenir cette hésitation-là, surtout avec le profil de Casimir, on l'a vu dans les années précédentes, qui est très particulier. Donc moi, je ne suis pas certaine que dès les débuts, il ait fait partie des personnes qui réclamaient l'abolition de l'esclavage. Je pense qu'on est plutôt sur une politisation qui est progressive, une fois de plus, qui est opportuniste, parce que progressivement, il sent le vent tourner et que progressivement, l'idée qu'abolir l'esclavage s'impose dans les esprits. Ce qui est sûr, c'est qu'il est républicain à partir de 1793. Mais je ne peux pas dire quand est-ce qu'il a été républicain à partir de 89. Donc moi, je donne juste cette date-là. Alors, en 1793, il est républicain, franchement. Mais avant, voilà, quand est-ce que ça s'est fait ? Moi, je laisse le doute planer. Connaissant sa personnalité, j'aurais plutôt tendance à dire que ça a été effectivement très progressif et que c'est notamment parce que au même moment son hôtel prend feu, que c'est un moment où son commerce bat de l'aile, qu'il va commencer à se détourner aussi de cet objectif-là, se politiser petit à petit. Moi je le vois plutôt comme ça, une politisation très progressive, mais qui va par contre aboutir en février 94 à la première abolition de l'esclavage, qui est connu assez rapidement à Bordeaux. Et là, pour le coup, on le sait, il va faire partie des personnes qui vont célébrer cette abolition de l'esclavage à Bordeaux, notamment avec deux autres libres de couleur bordelais. Il va être choisi pour avoir à la fois un rôle dans la fête qui est organisée à Bordeaux pour célébrer cette abolition, qui est une fête qui est conçue par les libres de couleur et dans laquelle ils vont tenir une place importante. Et il va également être choisi avec ces mêmes délégués, pour monter à Paris et adresser un discours de félicitations à l'Assemblée nationale, directement aux députés qui ont voté la loi d'abolition de l'esclavage. Et donc, il y a aussi, voilà, je retrace aussi ce parcours-là. Et donc, ils sont trois dans cette délégation, il n'est pas tout seul, il y en a deux autres avec lui, il y a Dubourg et Salmon, qui eux n'ont pas du tout le même parcours que Casimir, parce qu'ils sont des enfants métis, en fait, qui sont libres de naissance, qui ont eu accès à une éducation qui n'est pas du tout celle de Casimir, qui sont aussi beaucoup plus riches que Casimir, a priori. Et donc, moi, mon hypothèse, c'est que Casimir Fidèle, c'est pas notamment lui qui a prononcé les discours ou qui les a écrits. Je me dis plutôt que c'est a priori un autre de la délégation qui a une vraie expérience politique en amont, mais que Casimir Fidèle a plutôt un rôle de symbole. Il est là pour montrer que toutes les couleurs sont unies derrière l'abolition de l'esclavage. C'est un modèle qu'on retrouve à Paris à la même époque, où on fait figurer dans les délégations des libres de naissance, des affranchis, des Africains, des créoles, avec cette idée, voilà, que l'abolition de l'esclavage allait partager, quelle que soit la nuance de couleur, par toutes les personnes qui ont eu des origines africaines, et qu'il a aussi un rôle symbolique, a priori, à Bordeaux, où il est mis en avant, notamment lorsqu'il faut tenir la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et voilà, donc ça, c'est un peu son rôle. Je ne suis pas sûre qu'il ait pris la parole. Je suis assez réservée sur ça.
Vous dites qu'il ne maîtrise pas bien l'écrit, non plus.
Non, je ne pense pas que ce soit... Ce n'est pas ça, sa force. Mm. Sa force, c'est quelqu'un qui est charismatique. Je pense qu'il sait très bien nouer du lien, etc. Mais du coup, pour la personne qui... C'est pas lui qui a écrit le discours, c'est sûr et certain. Je pense que c'est vraiment Dubourg qui, avant ça, a été député au Colo, enfin, qui a été député à Saint-Domingue. Et donc, il a plutôt un rôle symbolique, être là pour montrer qu'on a une union des vues sur cette question-là. Et puis, il est quand même là aussi. Enfin, il est quand même physiquement là, donc c'est pas non plus un rôle de pacotille.
Il signe plus les pétitions.
C'est vrai que ça, je l'ai pas.
À la fin, on a l'impression qu'il disparaît. Ouais. Alors, il disparaît des archives.
C'est ça. C'est ça. Donc, la grande frustration de Casimir Fidèle aussi, c'est sa fin de vie. C'est qu'après avoir eu les 7 premières années de sa vie où c'est le flou, on ne sait pas qui il était quand il était enfant, on ne sait pas non plus qui il est quand il meurt. Donc, il meurt à quasiment 50 ans et il meurt à Paris. 2 ans après être remonté pour féliciter les députés de l'abolition de l'esclavage. Et ce qui est intéressant aussi avec Fidèle, c'est que juste après cette fameuse députation à Paris et les discours qu'ils ont prononcés, il disparaît des archives. Ce qui n'est pas le cas de ces deux acolytes, Dubourg et Salmon, qui, eux, vont être présents au sein de la communauté des libres de couleur parisiens, qui vont signer des pétitions, qui vont se déplacer à l'Assemblée pour dénoncer les lobbies coloniaux, qui vont faire partie aussi des personnes qui vont demander la libération de Julien Raymond, qui est la figure de leader de Libre de Couleur à l'époque à Paris. Donc, on les retrouve. On sait qu'ils continuent à être actifs, à contrer les lobbies coloniaux. Et par contre, Casimir Fidèle, rien du tout. Après cette députation, il disparaît. Donc, une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il est mort? Qu'est-ce qu'il a fait durant ces années-là? Moi, je fais l'hypothèse que quand même, objectivement, il a frayé toute sa vie avec des personnes qui appartenaient à l'élite de la population, qui étaient souvent des nobles. Et il y a plusieurs de ses anciens clients qu'on va retrouver sur le bio et qui vont être décapités quelques semaines avant et après son arrivée à Paris. Donc moi, mon hypothèse, c'est qu'il arrive à Paris, il fait son discours avec ses camarades. Et puis très vite, il se rend compte que le climat lui est pas très favorable et qu'il y a plusieurs des gens qu'il connaissait qui ont été exécutés. Et donc, lui, son intérêt, c'est pas de se faire connaître, c'est pas de prendre des risques en signant des pétitions, en dénonçant des choses, mais c'est plutôt de disparaître des radars. Donc moi, c'est l'hypothèse que je fais, c'est que si on le voit plus, c'est qu'aussi il fait le choix de ne plus être vu. Et il meurt, du coup, à quasiment 50 ans, dans des circonstances que je peux pas élucider. Je sais pas s'il est mort de maladie, puis aussi à 50 ans, à l'époque, enfin voilà, c'est pas non plus... C'est assez commun de mourir à 50 ans, surtout quand on meurt comme lui, c'est le cas à la fin de l'hiver, un hiver qui était très froid. Donc moi, je fais l'hypothèse la plus simple avant de partir dans des choses très romanesques, du genre il a été tué, il a eu un accident. Je fais l'hypothèse simple de probable qu'il ait eu un mauvais rhume et qu'il soit mort à la fin de l'hiver à Paris. Mais sa vie, du coup, finit pour le coup dans un complet anonymat ou presque. Et c'est un peu frustrant, mais je trouve ça aussi assez parlant au niveau du personnage et de sa capacité aussi, quand il le souhaite, à disparaître complètement et à se réinventer aussi et à jamais être là où on l'attend. Je pense que c'est aussi une particularité assez importante de Casimir.
Parce que finalement, ce que vous dites sur la fin de sa vie, c'est qu'il y a un moment, il risque, à force d'être stratégique et bien implantée dans la bonne société d'apparaître comme une figure de traître.
Bah absolument, oui, oui. Bah d'ailleurs, on sait, hein, c'est pas parce qu'on est une personne d'origine africaine qu'on est épargné par les violences. Notamment, il y a le premier maire de Nîmes, si je ne m'abuse, qui était un afro-descendant, qui avait son grand-père qui était africain et qui a été exécuté parce qu'on est parce qu'il était girondin. Donc ça n'exclut pas, hein, c'est pas parce que on est physiquement différent des autres qu'on échappe à la violence de l'époque. Et donc tout à fait, il aurait pu. Moi, je pense que s'il avait continué comme ça, il aurait pu faire partie des personnes qui ont cible en disant il y a des accointances trop fortes avec avec la noblesse notamment. Donc on passe sur le bio. Donc là, moi, je pense qu'il avait plutôt bien fait pour survivre encore un peu plus longtemps. En tout cas, il a échappé à la terreur, ça, c'est sûr.
Oui, et on finira peut-être là-dessus. Vous dites à un moment... Alors, je vais essayer de retrouver parce que je l'avais noté. Voilà, vous dites « Si Fidèle me fascine autant, c'est que sa simple existence rebat complètement l'usage que l'on peut... l'image, pardon, que l'on peut se faire de la société française d'Ancien Régime.
Ouais.
Et effectivement, quand on vous lit, hein, on a comme ça une levée d'un certain nombre de préjugés. Est-ce que
oui.
C'est ça qui vous a
absolument.
Finalement...
Ben, moi, ce que je trouve fascinant, le 18e, c'est vraiment un... Je pense que vous me contredirez pas, mais c'est un siècle que je trouve fascinant, qui est très foisonnant. Et je trouve qu'on en a souvent une image un peu figée. On s'imagine qu'on est forcément, bon, moi pour mon sujet qui m'intéresse, mais un 18e siècle blanc, un 18e siècle vu du côté de l'élite, très. Enfin voilà, ce qui vient à l'esprit automatiquement, c'est Marie-Antoinette, c'est Versailles, c'est des choses très lissées, c'est la vie des élites bordelaises. Et je trouve que du coup, d'avoir la figure de Casimir, ça montre que le 18e siècle, c'est aussi un siècle qui permet. Si on sait jouer des codes, d'avoir des ascensions sociales qui permettent de casser vraiment certains plafonds. Et c'est tout à fait ce qui se passe avec Casimir. Et c'est aussi ce que je voulais montrer, c'est que le 18e siècle, c'est pas forcément cette image-là très figée qu'on a dans nos livres d'histoire, qu'on a dans certains tableaux de Vernet, par exemple, mais qu'on est aussi dans un 18e siècle qui est plein de surprises, de personnes qui ont des destinées et qui sont originaires de plein d'endroits différents, qui est très mobile aussi. C'est un siècle où, en fait, on voyage beaucoup. On voyage assez facilement, de plus en plus. Il y a beaucoup de familles bordelaises qui ont un pied de l'autre côté de l'Atlantique. Et ce n'est pas étonnant d'avoir un cousin qui est aux Antilles, comme ce n'est pas étonnant d'avoir quelqu'un qui en revient après avoir vécu des années là-bas. Donc je voulais aussi faire ressentir tout ça, ce 18e siècle un peu plus populaire, je trouve, et puis aussi très métissé, quoi, métissé de plein de choses, métissé de cette première mondialisation qui est à l'œuvre, liée à la colonisation. Et je trouve que Casimir, c'est vraiment, pour le coup, là, il même s'il a vraiment une destinée qui le met à part, pour le coup, il incarne complètement tout ce que le 18e siècle peut être à l'époque. Et donc, je voulais aussi faire sa biographie pour ça.
Ouais. Je crois que c'est très réussi et que le public pourra en être convaincu s'il vous lit.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.